Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, avec aujourd'hui à la technique Bertrand Durand et Jean-Noël Vélan, et assisté de Claire-Sophie Collet, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Fanny Beauhuon qui réalise cette émission. Une petite humeur pour se faire plein de nouveaux amis. Une humeur pour notre rubrique Beaux-Arts, avec une mention spéciale au torero Francisco Rivera Ordeñez, à qui le ministère de la Culture espagnol vient d'attribuer la médaille d'or des Beaux-Arts, option tauromachie, pour, je cite, sa technique esthétique est parfaitement maîtrisée. Récompense qui a déclenché une bronca parmi les puristes de la corrida qui sévissent dans les arènes de Nîmes, de Madrid, de Séville et j'en oublie, où Francisco Rivera est plus considéré comme un coureur de top modèle que de mammifère à cornes. Pourtant, cet homme, voyez-vous, c'est le petit-fils d'Antonio Ordóñez, un matador de génie, 2000 bestiaux au tapis, un virtuose de l'estocade qui vous expédiait son quintal de viande sur pâte d'une main de maître. Bref, un véritable artiste, le Velázquez de la corrida, comme l'appelaient souvent les aficionados. Sauf que l'ami Velázquez, le vrai, on imagine que les taureaux d'Andalousie, lui, préféraient les voir en peinture. Et bien nous aussi, les péons, les picadors, les matadors dans leurs costumes bling-bling, on aimerait bien les voir rangés au musée des antiquités populaires, à côté de tout un tas de joyeusetés moyenâgeuses justifiées par une tradition obsolète dont on se passe fort bien aujourd'hui. Car n'oublions pas que dans cette histoire, le taureau est a priori un être vivant, c'est pas sûr, je suis d'accord, tout à fait conscient de ce qui lui arrive, ce qui est en droit et qui est en droit de ne pas considérer sa mise à mort comme une œuvre d'art. Alors, autre espèce traditionnellement à l'honneur en France à quelques semaines des élections européennes, les chasseurs de faisans d'élevage, de cochons gliés, piégeurs, veneurs et autres artistes de la gâchette. Avec une crise des vocations, et oui, parmi les esthètes en herbe, eh bien les jeunes, plus familiers des jeux vidéo que de la chevrotine, ne sont pas forcément convaincus qu'un bon animal est un animal mort. Alors tout à coup, dans les sociétés de chasse, on se découvre une vocation d'amis de la nature. On parle de chasse durable et hop, le tour est joué. On se place aussitôt sous la protection de Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, reconverti en ministre de la chasse, à l'occasion de l'Assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs. C'était la semaine dernière à Paris. Le ministre et surtout l'Élysée, où on décide de tout, qui nous promet d'instaurer par décret, s'il le faut, un délit d'entrave à la chasse. Délit d'ores et déjà applicable à la martre et à la belette, qui, paraît-il, chassent sans permis le lièvre et la perdrix et viennent donc d'être reclassés dans la catégorie des nuisibles. Délit d'entrave à la chasse qui permettra enfin aux amoureux du gibier d'eau, des oiseaux migrateurs, des faisans et autres sangliers engraissés au maïs de pratiquer leur art en toute tranquillité. Parce que les manifestations bruyantes des écolos, genre Ligue de protection des oiseaux, WWF, le ROC et autres empêcheurs de flinguer en rond, eh bien devinez quoi ? Ça les stresse, les chasseurs, eh oui. Mais un chasseur, ça vote et ça fait voter autour de lui. Et ça a toutes ses entrées dans nos deux assemblées. Un écolo, lui, souvent ne représente que lui-même et ça ne vote pas toujours. Ainsi va la biodiversité en France. Alors un magazine donc tout à fait éclectique avec des données très différentes. On va vous parler avec Bertrand Méheutz qui est philosophe de la politique de l'oxymore. Dans quelques instants, ça va être Jean-Marie Pelt. Nous irons faire un petit tour du côté de Darwin. Darwin, c'est trop bête, avec Marc Giraud en fin d'émission. Et puis notre fil conducteur, ça va être Serge Auru qui est le directeur général du WWF, donc le Fonds mondial pour la nature. Serge Auru, bonjour.
Bonjour Denis.
Alors Serge, alors peut-être, je sais pas, comme ça, une petite réaction, je dirais à chaud, parce que en fait, il y a eu un autre cas. C'est que les associations de chasse deviennent maintenant comme les associations écologistes. Hein. Donc effectivement, elles vont faire de la protection de la nature.
Eh bien, ça devient vraiment le développement durable de lapins.
Oui, d'accord. Et donc sinon, qu'est-ce qu'on se dit pour...
Eh bien, s'ils ont envie de protéger la nature, qu'ils le prouvent au quotidien et nous verrons les résultats. Les résultats, ça ne doit pas être simplement des espèces invasives telles le sanglier ou le lapin qui ravagent bon nombre de cultures. Il faut un équilibre. Je ne doute pas qu'il y ait des amoureux de la nature chez les chasseurs.
Ils sont incontestables.
Ne soyons pas uniquement dans le blanc et dans le noir, mais la nature...
Parce qu'il y a des intérêts communs, objectivement, effectivement. Avoir un milieu sain.
Elle a réellement besoin d'équilibre, d'harmonie et je crois que les que les viandards, ça doit être une espèce en voie de disparition.
Alors, cher Serge, si vous êtes là aussi, c'est parce qu'on va éteindre la lumière ce soir à 20h30, en tout cas on l'espère.
Ce soir, entre 20h30 et 21h30, nous allons éteindre les lumières. Ça a commencé ce matin avec la Nouvelle-Zélande, avec un énorme succès populaire à Sydney, en Australie. Effectivement, nous éteignons nos lumières pour allumer nos consciences, Denis. Ce soir, on va voter pour la planète, entre 20h30 et 21h30. Nous allons éteindre la Tour Eiffel tout à l'heure, à 20h30. Plus de 230 monuments à Paris, des centaines de villes en France, les plus grandes sont avec nous, des ténors de droite, de centre, de gauche adhèrent à Earth Hour. C'est quoi ? C'est une manifestation symbolique, il ne s'agit pas de couper son compteur électrique. On peut regarder le match de foot, on peut être sur Internet, on peut être sur planeteattitude.fr, on peut être sur earthhour.fr, mais on peut faire marcher son électroménager ce soir. On éteint ce qui est visible, on montre qu'on est amoureux de la planète et surtout début décembre 2009, c'est la Convention des Nations Unies à Copenhague. C'est une convention très importante, c'est l'après Kyoto. Donc il faut vraiment aider nos négociateurs à réussir.
Et on remettra évidemment les enjeux tout à fait en perspective. Un homme que vous connaissez bien évidemment, c'est Jean-Marie Pelt. Et on va s'offrir une belle brassée de couleurs. Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va parler donc de plantes avec vous, avec La beauté des fleurs et des plantes décoratives, votre ouvrage. Et on va parler des trois couleurs que nous connaissons, bleu, blanc, rouge. On va peut-être rappeler que le bleu, le blanc et le rouge, ça vient quand même de fleurs.
Oui, absolument. L'histoire de ces trois couleurs remonte à la Révolution. La couleur de la monarchie française, c'est le blanc d'Ulysse. Et le roi de France, Louis XVI, avait une cocarde blanche sur son chapeau. Quand les Parisiens ont commencé à s'agiter, il a voulu montrer qu'il était prêt à composer avec eux. Il a composé les trois couleurs en additionnant le blanc au bleu et au rouge de la ville de Paris. Et d'ailleurs, en 1848, la révolution suivante, on a voulu éliminer à la fois et le bleu et le blanc. Le bleu, ça évoquait le manteau du sacre, c'était donc monarchique. Le blanc, ça évoquait le lys, c'était très mauvais. Et on voulait garder que le rouge. C'est Lamartine qui a fait un grand discours à l'Assemblée nationale de l'époque et qui a défendu les trois couleurs, et depuis, c'est bleu, blanc et rouge.
Bon.
Alors, il y a trois fleurs. Il y a le bleu, le blanc et le rouge.
On pense que le bleu, il doit être dans le coup,
peut-être. Oui, pendant la guerre, lorsque nous voulions montrer nos sentiments nationaux à l'époque où les nazis étaient en France, les enfants, partout, dans toutes les écoles, faisaient pour le 14 juillet des bouquets bleu, blanc, rouge. Alors, il y avait d'abord le bleuet. Notons qu'on ne saurait plus le faire aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de bleuets. Les bleuets sont très rares, ils vivent dans les moissons.
Donc victimes des pesticides.
Absolument victimes des pesticides. Il est très difficile de trouver des bleuets. Et dans ma région, ici en Lorraine, il n'y a pratiquement plus de bleuets. Il y a encore des bleuets dans certaines régions où on n'est pas très chimique.
Ce qui est bleu, ce sont les couetches.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est intéressant de dire que le bleu du bleuet n'est pas tout à fait le même que le bleu du drapeau français. Il est plus doux, c'est un bleu plus azuré, et c'est en fait le bleu du drapeau hollandais et du drapeau luxembourgeois, qui ont des bleus plus tendres que notre bleu, plus fort à nous. Le blanc, c'est la belle marguerite blanche que tout le monde connaît, que les pesticides n'ont pas détruite parce qu'elle ne pousse pas seulement dans les moissons, mais elle pousse un peu partout. C'est une plante extrêmement prolifique. Et c'est une fleur que l'on connaît bien puisqu'on l'utilise pour dire « je t'aime » un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. C'est une plante qu'on effeuille dans ce petit jeu de l'amour à la marguerite. C'est les pétales qu'on enlève. Oui. Et au milieu, il y a une rosace jaune qui sont les étamines. Mmh. Et autour, il y a des pièces vertes qui sont les sépales. Et puis après, voilà le petit pas qui n'a pas de pistil. Alors qu'est-ce que c'est que cette fleur étrange qui n'a pas de pistil ? C'est là que se font coincer, en fac, les mauvais élèves. Ah. Les mauvais élèves ont dit « c'est une fleur ». Erreur ! Ça n'est pas une fleur.
J'en avais serré plus d'un, je sens.
Mais non, c'est pas une fleur. C'est une société de fleurs. Quand on regarde les pseudo-pétales blancs qu'on enlève, on voit à la base un tout petit tube Et puis, il y a un petit truc qui sort du tube qui ressemble à une sorte de misérable étamine ou de misérable pistil. Enfin, tout ça est complètement avorté. Les organes sexuels ne sont plus là. Cette fleur n'est pas performante, mais elle est belle parce qu'elle n'a qu'un seul but, c'est d'attirer les insectes. Mmh. Elle fait le travail des pétales et elle s'est déguisée en pétales en oubliant et en éliminant ce qui aurait fait d'elle une fleur normale. Au centre, alors au centre, c'est tous des petits tubes jaunes. Il n'y a pas de pétales, la scousse. Mais les pétales serviraient à rien, puisque les fleurs du tour jouent le rôle de pétales. Alors au centre, il n'y a plus que les organes sexuels. Il y a les étamines et il y a les pistils. Et comme c'est d'un très beau jaune, les insectes ont été attirés par la blancheur des pseudo-fleurs qui ressemblent à des pétales, se sont précipités sur la marguerite, piétinent le milieu, se mettent du pollen partout et vont emmener ce pollen sur une autre fleur en poursuivant le mécanisme. Et c'est comme ça que la marguerite est très efficace et qu'elle pratique la division du travail comme dans toute société élaborée. Il y a les fleurs qui attirent les insectes, il y a les fleurs qui nourrissent les insectes au centre et qui leur donnent le pollen. Et j'ai donc dit que cette fleur était une fleur qui devrait être le modèle des socialistes, puisque c'est une fleur socialisée. Ah oui. Pas du tout comme la rose, qui est le modèle d'une fleur libérale. Elle n'a pas mis trois roses ensemble l'une à côté de l'autre. Vous n'avez jamais vu, quand vous prenez une rose, toute une série de roses qui se serrent les unes contre les autres avec une seule tige. Ça n'existe pas.
Il manque un peu de botaniste peut-être au Parti Socialiste.
Peut-être. Alors évidemment, bon, elle a des épines. C'est vrai qu'au Parti Socialiste, il y a des relations épineuses entre les partenaires. C'est vrai qu'elle est rouge. Ça, c'est un... Oui.
C'est pour ça qu'elle a été choisie, d'ailleurs.
Parce qu'elle est rouge, c'est un atout qui est tout à fait intéressant. Mais je voulais faire une suggestion et dire que ce qui serait pas mal pour le Parti Socialiste, c'est un magnifique gerbera rouge. Je ne sais pas si vous connaissez les gerberas. Si vous ne les connaissez pas, vous les connaissez quand même. Ce sont des plantes qui sont extrêmement fréquentes en Thaïlande et en Asie du Sud-Est, parce qu'on les met devant les statues du Bouddha dans les temples. D'accord. Ce sont d'énormes marguerites, dont les fleurs stériles du pourtour ne sont pas blanches, mais sont d'un très beau rouge, qui au centre ont des toutes petites fleurs qui font la reproduction, et qui sont donc socialisées au même titre que le sont les marguerites elles-mêmes. Donc nous allons dédier un magnifique gerbera rouge au Parti Socialiste.
Bon, bah écoutez, ils vont nous écouter, puis après, ils font le...
Après, ils font ce qu'ils veulent. Voilà.
Ils font ce qu'ils voudront, absolument. Juste un mot quand même sur le rouge, parce qu'on est parti quand même sur les trois couleurs, bleu, blanc, rouge, donc le bleu, le blanc, la marguerite, et le rouge, le coquelicot.
Et le rouge, le coquelicot. Alors, le coquelicot est une fleur qui va bien avec la symbolique hardiment républicaine de ce drapeau bleu, blanc, rouge, parce que en bouton, il est couvert par deux pièces qui sont des sépales un peu particuliers et qui forment sur sa tête une sorte de bonnet phrygien. Oui. Alors, il a un côté très républicain. C'est ça. Et puis alors, il a une autre particularité, le coquelicot, c'est que comme les révolutions, il n'est pas durable. Mm-hmm. Les révolutions, ça dure un moment, puis ça flanche. Alors, il perd ses pétales très, très vite. Il est très curieux, le coquelicot, avec ses pétales. Ses pétales, ils sont tout froissés sous le bonnet phrygien. Alors, il prend grand soin de les défroisser quand il s'épanouit. C'est un petit travail qu'il fait, c'est très joli. Les coquelicots ont de magnifiques pétales défroissés. À peine sont-ils défroissés, pouf, ils tombent. Ça ne dure pas. On ne peut pas faire de bouquet. Mais ils sont durables autrement. C'est leurs graines qui sont durables. Quand on retourne à un champ où... un chemin pour faire une route, qu'on fait des talus, oui, qu'on fait une autoroute. Tout d'un coup, il y a des coquelicots partout. Eh bien, c'est parce que ces graines étaient sous le sol et qu'elles sont capables de rester sous le sol très longtemps. Elles conservent leur pouvoir germinatif très longtemps. Et puis, dès qu'elles ont de nouveau de l'air et de la lumière, pan, elles redémarrent. Et il y a comme ça parfois des populations de coquelicots extraordinaires. Je me rappelle qu'en 1977, la ville de Thionville est passée au Parti communiste et qu'en même temps, on y avait fait une tranchée pour une autoroute. Tout était rouge. Tout Thionville est devenu rouge en même temps que le PC a pris la ville.
Bon, et ben voilà. Donc on a donc nos trois couleurs et donc ces histoires de plantes avec vous, Jean-Marie Pell. La beauté des fleurs et des plantes décoratives aux éditions du Chêne. Petite question comme ça de profane. Une pâquerette, c'est pas une mini marguerite? C'est de la même famille?
C'est
ou pas
une mini marguerite.
Ah si, quand même, c'est ça.
C'est exactement la même chose.
Ah oui.
Voilà.
Bon, mais en plus petit.
En plus petit.
Okay.
C'est une marguerite miniature pour un parti socialiste qui se serait complètement épuisé.
C'est ça. Bon, merci Jean-Marie pour cette double chute. Et donc, à très bientôt. Au revoir Jean-Marie.
Oui, on est presque par terre.
Au revoir.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Et nous aussi, on peut le faire dans l'émission. Vous voyez, non, mais voilà, c'est ça, et sans bruitage, quoi. Enfin, sans disque, c'est la vraie vie, c'est comme ça. Non, et non, on aime beaucoup. Hein. C'était donc Camille, choisie par Emmanuel Chupin, notre programmatrice. C'était Cat and Dogs, et on adore. Alors, tenez, question sur le répondeur de CO2 Mon Amour qui permet de lancer donc la séquence suivante.
Bonjour à toute l'équipe et à Denis Chessou, c'est Fanny d'Angers. J'ai entendu un samedi matin sur France Inter un homme qui parlait très bien d'oxymore et d'environnement. Et j'avais envie d'en savoir plus. Bonne journée à tous.
Alors d'abord, vous avez d'excellentes écoutes, hein, puisque c'était la très bonne séquence de Laurence Luret qui s'appelle Parenthèse, dans le 7h-9h de Stéphane Paoli. Et donc, Laurence recevait un homme qui s'appelle Bertrand Méheux, qui est philosophe, qui se définit comme étant un pessimiste méthodique. Et avant donc que cet homme-là ne reparte à Mayotte où il enseigne, eh bien, nous l'avons nous aussi interviewé. Bertrand Méheux, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit La politique de l'oxymore aux éditions de La Découverte. Et puis, vous êtes aussi un spécialiste de l'histoire de la psychologie. Quand on parle d'environnement, ça, moi, ça me semble extrêmement important. On va dire que l'oxymore, c'est la conciliation des impossibles. Alors, on va parler, par exemple, de guerre propre, ça, c'est un oxymore. De 4x4 bio, ça peut être aussi un oxymore. De moralisation du capitalisme. On a entendu dans la bouche de Christine Lagarde, il n'y a pas tellement longtemps, croissance négative.
La croissance négative, c'est le grand truc du moment. Oui.
Hein, c'est bien aussi, oui, ça. Et puis, on va aussi revenir sur le fameux développement durable, ou plutôt développement soutenable. La théorie que vous avez, c'est de dire qu'un monde mental et une société ne renoncent pas à eux-mêmes, sauf si des forces extérieures considérables les contraignent. Alors ça nous réjouit pas tellement, parce qu'on se dit que derrière tout ça, quelle va être notre liberté d'agir demain avec ces problèmes environnementaux?
Oui, c'est vrai que c'est un constat très pessimiste. D'abord parce qu'il est historiquement massivement fondé. Il est très difficile de trouver un contre-exemple de ce que j'avance. Mais en plus de ça, alors on pourrait se dire, notre société va créer le miracle. Elle va être la première qui va réussir à s'affranchir de cette espèce de loi de régulation interne qui pèse sur les sociétés.
Et des lois physiques, tout simplement, aussi.
Ouais, ouais. Une sorte de physique sociale. Hein. Voilà. Sauf que, malheureusement, je pense que c'est du moins mon analyse. Elle est justement lancée dans le processus inverse, c'est-à-dire qu'elle crée sans arrêt de l'irréversible. Il est beaucoup plus difficile à notre société de revenir en arrière que les autres, à cause du caractère gigantesque des processus qu'elle déclenche.
De la sophistication aussi de nos sociétés.
Bien entendu, de leur fragilité, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus revenir en arrière. Hein. Et elle dispose de moyens matériels et intellectuels plus puissants que n'a jamais connu aucune société. Et je pense que c'est tout simplement un bon sens, hein, qui me fait dire qu'elle s'en servira jusqu'au bout pour essayer de maintenir sa voix.
Et pourtant, vous avez des hommes que vous connaissez, un homme qui s'appelle Dominique Bourg, donc, qui est philosophe et théoricien du développement durable, qui est aujourd'hui donc, à Lausanne, bon, et qui sait qu'à la fois le constat est quand même très lourd aujourd'hui, et en même temps on peut se dire que les démocraties modernes possèdent le ressort nécessaire pour affronter une catastrophe en gestation.
Oui, c'est le point de désaccord que j'ai avec Dominique, avec qui j'ai beaucoup discuté de ces choses depuis très longtemps. Lui, il pense ça. Moi, je pense que la démocratie, du moins la démocratie telle qu'elle est pervertie par le marché, je pense qu'elle n'a plus les mains libres pour réagir. Oui. Et je pense qu'elle est liée à des forces considérables qui l'empêchent ou qui vont l'empêcher pendant très longtemps encore de faire machine arrière. Alors, bien entendu, à un moment donné, il va y avoir déviation de la route, décélération, des contre-tendances très puissantes vont apparaître, mais je pense que l'inertie du système est énorme.
Alors, avant de venir, on va dire, à la vraie transformation des esprits et des mentalités, on baigne dans cette idée qu'éventuellement, le couplage marché et progrès des technosciences pourra apporter des solutions.
Oui, mais si on se limite à une solution purement technique et instrumentale, je pense qu'on est dans une fausse voie. Un peu comme ma parabole de l'alcoolique qui continue à boire tout en prenant ses pilules de désintoxication. Ça, c'est un oxymore typique.
C'est-à-dire que seuls les médicaments ne peuvent pas faire grand-chose si on ne s'attaque pas, évidemment, aux vrais problèmes.
Aux racines existentielles de la boisson. Et donc, je pense que l'illusion que cela risque de renforcer encore, et donc, ce faisant, de nous enfoncer dans notre voie, c'est de croire que par des solutions techniques, on peut s'en sortir de la mauvaise situation dans laquelle on s'est placé. Personnellement, je peux me tromper, mais je ne le crois pas. Je crois qu'il faut une véritable mutation philosophique, mentale, culturelle.
Donc il n'y a pas que les ruptures techniques et technologiques, il faudra une rupture de la pensée.
Quoi. Bien sûr. Autrement, mon analyse est que ces ruptures technologiques serviront encore à renforcer le système dans sa voie et à rendre le retour en arrière plus impossible. Plus on différera les mesures fondamentales, plus la situation deviendra inextricable.
Alors Bernard, mais maintenant parlons effectivement de cet oxymore, puisqu'il est aussi au cœur de votre sujet, développement durable. On rappelle qu'au départ, ça veut dire développement soutenable, donc qu'est-ce qui est soutenable pour la Terre? Et vous rappelez par exemple que le MEDEF s'en est emparé de cette cause écologique, comme si cette cause avait toujours été la sienne, qu'on a une récupération brutale de l'écologie par un système financier capitalistique qui l'avait d'abord écrasé avec beaucoup de mépris. Donc qu'est-ce que l'on peut espérer de cette affaire-là? Quelles sont les limites pour vous?
Je pense que c'est dangereux, justement, parce que cette récupération donne aux gens l'impression qu'on est en train de faire le virage décisif, alors qu'on est en train de poursuivre dans la même voie. Et c'est justement là que surgissent les oxymores, c'est-à-dire des figures de la conciliation impossible, qui se mettent à proliférer en ce moment d'une façon tout à fait stupéfiante.
Et vous vous dites que ce fameux Grenelle de l'environnement, qui à la fois effectivement permet de mettre des gens de différentes sensibilités autour de la table qui ne se parlaient pas avant, peut être aussi une espèce de récupération et de bien faire comprendre que l'écologie est compatible avec la croissance.
C'est ça, voilà. Le but fondamental, non seulement qu'elle est compatible avec la croissance, mais on entend même des gens dire aujourd'hui qu'elle exige la croissance.
Est-ce que malgré tout, cela peut permettre de stabiliser, on va dire, les choses, c'est-à-dire la pression matérielle sur la nature, et de se dire, ben voilà, c'est encore praticable. On est, vous le dites, entre un impossible retour en arrière à l'ère pré-industrielle et donc une surenchère suicidaire du libéralisme moderne. Ça vous rejoignez, Dominique Bourg,
oui, tout à fait,
sur cette
absolument.
Analyse. Mais est-ce qu'on peut quand même limiter la casse? Parce que ça revient à ça quand même, et là c'est peut-être encore possible, quoi, donc...
C'est ce qui, sans doute, il faudrait au minimum arriver à faire. Mais je ne vois pas comment une société qui, par ailleurs, continuerait d'être mue par son idéologie même, par l'idée du changement et de la nouveauté, je ne vois pas comment cette société pourrait rester stable sur le plan matériel. Et donc, comme, sauf erreur de ma part, la biosphère a déjà atteint le point de saturation dans pas mal de domaines, et même peut-être dépassé, imaginez qu'on continue peu à peu de charger la nature, même sur des siècles, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est...
C'est l'inertie qui est derrière,
voilà,
aussi.
Voilà, et puis il faut que ce soit vrai pour des siècles et des millénaires. Nous n'avons aucune porte de sortie, il n'y a pas de planète de rechange habitable à proximité. Et donc je pense que nous finirions par faire effondrer la biosphère si nous continuions dans cette voie. Donc je ne pense pas, mon analyse me conduit à penser que ça ne pourra pas fonctionner très longtemps.
Alors d'où effectivement votre théorie sur ce qu'on appelle la saturation, mais absolument en tout genre aujourd'hui, à commencer effectivement par celle de la promotion moderne de l'individu.
Oui.
Ça a des conséquences évidemment sur la biosphère.
C'est le point central peut-être de tout cela. Hein. C'est que plus on promeut l'individu, plus on élargit la sphère de ses besoins matériels, culturels, psychiques, etc. Sa mobilité, son espace vital, sa façon de se nourrir, etc. Et au fur et à mesure que ce modèle de l'individu va se répandre sur la planète, on va voir les gens consommer davantage. Je vois la chose là où je travaille en ce moment, sur l'île de Mayotte, où on voit cette transformation très rapide des gens sous l'influence de la société française, enfin de la culture qui vient d'Occident.
On va rappeler, il y a combien d'habitants à Mayotte et il y a quand même une pression démographique assez forte.
Hein. Il y a 200 000 personnes.
Sur un territoire qui fait combien de...
Le tiers d'un département français à peu près.
Oui, donc ça va faire 1500 km2.
Voilà. Même au moins que ça, moins que ça. Ouais. C'est un 600, je crois, un truc comme ça. C'est très découpé. Et donc là, on voit cette île magnifique qui a atteint déjà ses limites de sa saturation. Ça va très vite se produire.
Alors, ce que vous comprenez aussi, c'est qu'on a besoin, enfin, ça fait partie peut-être de la nature humaine, soit on est radicalement pessimiste, pourquoi pas d'ailleurs, soit on est aussi, on peut être naïf, optimiste et tout ça, mais on a quand même envie de vivre. Et donc, on a un peu besoin d'espoir, vous voyez, donc on est un peu là-dedans, nous, avec Jean-Marie Pelt, avec Dominique Bourg, mais qu'est-ce que l'on peut quand même espérer quelque part?
D'abord, je peux espérer me tromper.
Oui.
J'ai mis ces idées sur le marché, si je puis dire, pour voir si... Bon,
comment ça rebondissait, quoi.
Voilà. Oui. Ensuite, je crois assez à ce qu'avait dit le grand philosophe de l'écologie, Hans Jonas, qui disait que les prophéties de malheur sont faites pour éviter les malheurs en question. Mm-hmm. Peut-être qu'en plaçant les gens brutalement devant une issue que la plupart des gens se refusent à voir, on va peut-être accélérer un peu le changement des mentalités.
C'est-à-dire que vous souhaitez qu'on regarde au moins la réalité en face?
Voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est comme le fait que nous devons tous mourir ne nous empêche pas d'agir en général. Bien.
On est face...
Devant, je veux pas dire que ça va nécessairement arriver. Mais c'est une issue qui peut être envisagée.
Bertrand Méheu, nous sommes face à une civilisation, en tout cas civilisation occidentale, qui a été coupée depuis un certain temps de la nature, bon, qui ne se sont pas forcément reliés. Ce n'est pas le cas de tous nos auditeurs, mais quand même globalement. Puis vous avez même des gens, là j'ai poussé jusqu'au bout, qui vous disent, mais après tout, de ne pas avoir d'ours brun dans les Pyrénées, de ne plus avoir d'ours blanc, de ne plus avoir de girafe, de ne plus avoir d'orang-outan, ce n'est pas un problème. Sous-entendu, pour mon petit quotidien personnel, ça ne va pas changer grand-chose. Quelle est votre réaction par rapport à ça?
D'abord, j'ai pitié d'eux. Pour moi, c'est des extraterrestres qui parlent comme ça. Bon, mais à supposer qu'on puisse se passer de certaines espèces animales, déjà pour commencer, le raisonnement est fatal, à mon avis, parce qu'on est en train de s'enfermer dans une espèce de position insulaire, l'homme coupé de la nature. Et ça, c'est pas viable. C'est notre fin, ça. Mais d'autre part, aujourd'hui, on sait que lorsqu'on brise la chaîne du vivant quelque part, ça peut avoir des répercussions terrifiantes. Par exemple, la question des abeilles.
Oui.
La question des abeilles est évidemment un exemple frappant.
Alors Bertrand Méheux, vous dites que le problème n'est plus de savoir si le choc aura lieu, mais d'en évaluer sa violence. Et puis vous posez aussi une très bonne question, c'est de discerner en fait la marge de manœuvre dont nous disposons, le temps qui nous reste avant que le point de nos retours ne soit atteint. C'est à peu près ça notre libre arbitre aujourd'hui?
Oui, je pense. Toutes les discussions portent sur le temps qui nous reste et c'est pas facile à savoir. Par exemple, l'autre jour, il y a eu un verdict donné par un congrès de climatologues, je crois. Et semble-t-il...
Qui sont réunis à Copenhague, voilà. Avant effectivement ce qui va se passer au mois de décembre à Copenhague.
Alors, semble-t-il, ce qui se dégage, c'est que c'est le scénario le pire qui est en train de se dérouler. Arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est...
C'est-à-dire que le pire scénario de 2007 est déjà dépassé pour eux.
Donc on a de bonnes raisons d'être pessimiste.
Oui. Et en même temps, qu'est-ce qu'on dit à des gamins qui nous écoutent, qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui sont lancés quand même à toute vitesse dans ce 21e siècle-là?
On ne peut pas savoir ce que feront nos enfants. Ouais. J'espère bien qu'ils vont prendre des mesures plus radicales que nous.
L'ouvrage donc, s'appelle « La politique de l'oxymore » aux éditions de la Découverte de Bertrand Méheux, ce qui est reparti. Hein. Donc c'était un entretien qui a été enregistré il y a quelques jours avant qu'il ne reparte à Mayotte. En direct dans ce studio, Serge Auru, donc directeur général du WWF, du Fonds mondial pour la nature. Petite réaction comme ça à chaud, Serge?
Il y a quelqu'un qui n'est pas philosophe qui a dit il n'y a pas longtemps, à 50 ans, si on n'a pas une montre de marque, on a raté sa vie. J'ai envie de rétorquer que si à 50 ans, on n'a pas une conscience écologique, on est sûr de rater sa vie et celle des autres.
Voilà, écoutez, ça me paraît effectivement une bonne conclusion. Puisqu'on était tout à l'heure dans les ours blancs, les pandas à Lyon, place des Terreaux, qu'est-ce que c'est?
1600 pandas en papier mâché pour justement montrer la fragilité de notre biodiversité. Les pandas, c'est une espèce en voie de disparition. C'est le logo du WWF depuis 1960. Et c'est là, sur la place des Terreaux, on en a 1500 en papier mâché, fait par l'artiste Polo qui vit à Grenoble. Et on a la réalité d'une menace. Alors c'est magnifique parce que c'est blanc et noir et c'est ravissant un panda. Mais le lombric est aussi important. Donc l'ensemble de la biodiversité, c'est quelque chose, c'est notre vital. Et il faut le défendre avec amour, avec passion, avec véhémence. Il ne faut pas hésiter, il faut s'engager. Et je vous engage, chers auditeurs, à vous engager dans cette lutte. Parce que cette lutte, c'est pour les générations futures.
Il fera tous les bars de la terre, il ira où on ne connaît pas, tanguera sur les fuseaux horaires, fera voyager sa gueule de bois. Il boira comme on part à la guerre, sans être sûr qu'on en reviendra. Il retrouvera partout un frère, à Shanghai, Séville ou Luanda. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Il ne connaîtra pas le silence, autour de lui la nuit hurlera. Il tombera en pensant qu'il danse, et que tant que tout tourne, tout va. Il n'aura ni remords, ni regrets, ni personne quelque part pour l'attendre. Rien que le bonheur pris sur le fait, sans lendemain pour le lui reprendre. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante. Il fera tous les bars de la terre, prendra tous les verres qu'on lui tendra. Roulera sur les deux hémisphères, va savoir où il se réveillera. Il promènera sur lui le parfum de quelqu'un dont ne lui reviendra ni la voix, ni le regard, ni rien. Et dans le premier bar entrera. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Il ira, 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 hasta que el cuerpo aguante. Et ne connaître attrapa le silence. Autour de lui, la nuit hurlera. Il tombera en pensant qu'il danse. Et que tant que tout tourne, tout va. Il n'aura ni remords, ni regrets, ni personne quelque part pour l'attendre. Rien que le bonheur pris sur le fait. Sans lendemain pour le lui reprendre. Il fera tous les bars de la terre. Prendra tous les verres qu'on lui tendra. Il fera voyager sa gueule de bois. Il boira comme on part à la guerre. Sans être sûr qu'on en reviendra. Sans être sûr.
Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante.
L'album paraîtra dans deux jours, c'est donc Dominique A. Asta, ça a l'air très très bien. Si tout l'album est de cette qualité, en général ça l'est, eh ben, on va se régaler. Serge Rue, parlons de bio à la cantine, là aussi action, parce que dans notre grande série Action-Réaction, si on ne secoue pas à la fois nos élus sur ce problème-là, même si c'est acté dans le Grenelle, qu'il faut évidemment augmenter la part du bio dans les cantines scolaires et dans la restauration générale, bon, c'est déjà indiqué, mais enfin, on a quand même que 2,5% de la surface utile agricole aujourd'hui qui est donc dédiée au bio. Une fois de plus, on ne va pas vous faire le couplet qui le bio va sauver le monde. Non, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que l'on peut faire, nous, à notre niveau ?
Dans le prolongement de l'excellent film de Jean-Paul Jaude, Nos enfants nous accuseront, qui d'ailleurs va bientôt atteindre les 200 000 spectateurs.
C'est bien, hein ?
Fantastique.
Ah oui, vraiment.
Avec si peu de copies, c'est magnifique. Eh bien, on a décidé de lancer avec le WWF, avec une association qui s'appelle GECO, Oui au bio dans ma cantine. Il s'agit d'ici le 18 juin de préparer nos interventions, des délégations, des pétitions à nos maires, les maires de nos communes, pour leur demander de mettre la cantine au bio ou d'avoir davantage de produits issus de l'agriculture biologique dans les mets de nos enfants. Mmh. C'est très important. Donc le 18 juin, il y aura des délégations, il y aura des pétitions, il y aura des courriels qui seront adressés aux mairies.
Et ça suscitera obligatoirement après des conversions en France, parce qu'aujourd'hui on a plus de la moitié du bio donc, qui est importé, mais donc ça va susciter évidemment des vocations, entre guillemets. Donc.
Il faut absolument développer l'agriculture bio. D'abord, c'est une question de santé pour les paysans et pour nous qui mangeons des produits, il faut bien le dire, teintés de pesticides très régulièrement. Mm-hmm. Donc il faut sortir de cette agriculture productiviste, il faut aller vers une agriculture biologique, c'est vraiment très très important.
Alors cet homme-là que vous allez écouter s'appelle Gilles-Éric Serralini, il sera l'invité de Fabienne Chauvière tout à l'heure dans Les Saventuriers. Il est déjà venu plusieurs fois à ce micro, c'est un spécialiste des produits toxiques, écoutez-le.
100 000 substances chimiques nous ont contaminés depuis progressivement. Or, la plupart de ces substances chimiques, quand on les essaye sur des cellules en éprouvette, ce que je fais, ces substances se fixent à l'ADN, l'abîment, oui. On sait qu'elles se fixent sur des récepteurs hormonaux qui sont impliqués dans le cancer du sein ou d'autres. Et tout ça se passe à des vitesses où ça ne peut pas être génétique. Donc on voit que ce qui change, c'est l'environnement.
Serge Rue, ça nous ramène donc au WWF, au réseau santé-environnement.
Le réseau environnement santé.
Pardon.
Et avec nos amis André Sicolella, Veillerette et bien d'autres. Et effectivement, on a créé ce réseau environnement santé avec des associations de malades, avec des associations de médecins, de professionnels de santé, avec des ONG pour prouver le lien entre l'environnement et la santé. Vous savez, on nous a tellement menti sur le tabac, sur le plomb, sur l'amiante et sur bien d'autres produits. Donc là, il est vraiment, je crois que le 21e siècle va être il va être révélé le lien entre ce que nous mangeons, entre ce que nous buvons, avec l'air que nous respirons. C'est quand même incroyable que l'on nie aujourd'hui à la fois l'épidémie de cancer et notre environnement. On dit qu'il n'y a pas de cause à effet. C'est assez incroyable. On dit qu'il n'y a pas de lien direct. Faut-il attendre 50 ans d'études ? Pourquoi il n'y a pas de registre de cancer en France, dans chaque région ? Une question que l'on peut poser. Donc le réseau environnement santé, c'est un acte citoyen majeur qui a été créé il y a un peu plus d'un mois et demi. Donc allez sur le site réseau environnement santé ou allez sur le site planeteattitude.fr pour Oui au bio dans ma cantine. Vous allez avoir toutes les informations.
Alors WWF travaille avec un certain nombre d'entreprises. Parfois évidemment certains vous le reprochent. Ça c'est un grand classique pour vous et d'autres aussi ONG.
Écoutez Denis, où on est à l'extérieur et on envoie des obus de mortier ou on tente de changer la mécanique de l'intérieur. Nous on choisit de d'être à l'intérieur et on reste complètement indépendant. Les ressources des partenaires du WWF, c'est à peine 25%. On a 160 000 membres et c'est cela que l'on doit développer et on est très fiers de l'action avec nos partenaires. Bien sûr, des fois ça traîne, il faut pousser à la roue. C'est pas si simple, on vit des contradictions dans la vie. Eh bien, allons-y, on a des vrais résultats, on en est très fiers.
Et comme nous sommes dans la semaine donc, du développement durable, on rappelle que le terme initial, c'est vraiment développement soutenable. Qu'est-ce qui est soutenable pour la Terre, hein ? Jusqu'à présent, on va dire que les désirs de l'homme étaient supérieurs à la capacité de la Terre. Ben maintenant, évidemment, c'est l'inverse. Là, vous avez bossé avec Orange. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on essaye de nous fourguer des téléphones portables en gros tous les 18 mois. Et là, eh ben, changement un peu de paradigme, c'est Orange qui verse 40 euros à ceux qui acceptent de conserver leur vieux téléphone mobile.
Denis, vous qui nous suivez depuis longtemps, vous savez que l'empreinte écologique pour nous, est, qui mesure l'étendue, le type de pression que l'homme exerce sur la planète, c'est important. Et puis vous savez que le concept du jetable au durable, comment on passe de la société du jetable à
ce qui ferait très plaisir, on va lui rendre hommage à Thierry Cazazian, hein, oui. Qui est un homme qui avait inventé le concept d'économie légère, et c'était cela aussi qui était derrière.
C'est un merveilleux...
C'est un designer formidable.
Qui nous manque énormément. Et là, j'en perds un peu mes propos.
Moi, je reviens sur mes téléphones portables, parce qu'effectivement, bon, jusqu'à présent, lorsque l'on change son téléphone, bon, bah voilà, on le change et puis après...
Et bien là, justement, dans ce partenariat avec Orange, et on ne cache rien chez Orange lorsqu'on discute avec eux des ondes électromagnétiques, des émetteurs, etc. Mais là, sur la notion du jetable au durable, et bien là, aujourd'hui, vous allez chez Orange, vous avez un certain nombre de points parce que tout est fait pour changer de portable tous les 12 mois, tous les 18 mois. Là, effectivement, on vous donne 40 euros et donc ça vous permet de le garder. Donc, on reste dans le durable. Ça peut concerner 200 000 téléphones portables dans l'année.
On va dire que ce n'est pas non plus des philanthropes parce que, bien évidemment, lorsque eux achètent un téléphone unitaire, ils l'achètent à peu près 150 euros. Ils le revendent au client final 50 euros et donc ils prennent à leur charge une centaine d'euros. Donc ça, c'est leur système économique. Donc aussi, ils se disent que derrière, ils récupèrent une partie de la subvention. Hein, donc,
Faites leur confiance pour gagner de l'argent, ça c'est évident. Les téléphones portables aujourd'hui sont essentiellement fabriqués en Chine, y compris pour des gros opérateurs, c'est difficile de mettre la pression sur les fabricants. Comment se fait-il, par exemple, que dans les téléphones portables, on n'ait pas d'oreillette avec un enrouleur ? Aujourd'hui, lorsqu'on a une oreillette, il faut, dès que le téléphone sonne, défaire tous les nœuds et on en a pour 2h30 et on jette l'oreillette. C'est important de téléphoner avec une oreillette. Bien sûr. C'est vraiment un conseil
le plus important
que je vous donne. Téléphoner avec une oreillette et surtout, ne conservez pas le téléphone près de vous. Voilà.
Alors bon, au lieu de les changer tous les ans ou bien tous les ans et demi, alors il y a quand même une limite, c'est que ça ne tient pas plus de 3 ans, hein, même au dire des spécialistes. Mais c'est évidemment déjà, on va dire, un petit progrès. Allez, on continue, on y va en musique. Allez.
The way as tears go by, will I? to pray. Dear, dear, that's not the way. As tears go by, we'll have to pray. We'll have to pray.
Si vous avez reconnu Jean-Philippe Rameau, c'est normal, Les Indes Galantes, mais revu et corrigé dans le bon sens par Marc Collin. Le projet s'appelle Private Domain, et donc, ben voilà, donc c'est Here in This Place. Et c'est très intéressant parce que ce sont là aussi d'autres hommages donc à d'anciens artistes qui ne seront pas forcément là pour écouter France Inter. Et là, nous en avons un artiste, que cet homme est à la fois preneur de son, il est ornithologue, il s'appelle Pierre Palinga, il habite l'Ardèche, on traverse le Rhône et il vient de sortir alors un album qui nous a beaucoup plu chez Frémaux Associés qui s'appelle simplement Drôme, concert naturel, on entend des coucous, on est près de la forêt de Chabeuil, mais Pierre Palinga est chez lui, dehors dans l'Ardèche. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Denis.
Vous êtes dans la vallée de Lérieux, c'est
oui,
ça?
Oui, en Ardèche, oui.
Alors la vallée de Lérieux, c'est une grande vallée qui dégringole des hauts plateaux du Vivarais, puis après qui se jette dans le Rhône, c'est ça?
Oui, oui, tout à fait, oui. Ouais. Et puis aujourd'hui, c'est formidable puisqu'il pleut chez nous. Et c'est vraiment une bonne nouvelle pour les jardins, pour les petites fleurs, pour tout ce qui veut pousser, et puis pour les oiseaux, puisqu'il n'avait pas plu depuis environ un mois. Donc on était en quasi-sécheresse printanière, ce qui n'est jamais bien bon, pour les jardins aussi. Donc là, c'est vraiment une belle journée, l'horizon est tout gris, on voit à peine les montagnes qui nous environnent, tout est pris dans les nuages et il pleut doucement, c'est une très belle journée.
Alors faites-nous un petit peu l'arrivée du printemps pour faire suite à l'émission de la semaine dernière. Donc comment ça se passe chez vous? Vous avez commencé à le dire, on a déjà des migrateurs qui arrivent.
Oui, bien sûr, oui, oui. Alors, déjà, c'est la saison du jaune, avec les mimosas. Bon, les mimosas sont un peu en retard cette année. Les jonquilles, bien sûr, les forsythias dans les jardins, les ajoncs dans les collines, c'est vraiment tout est jaune. Et puis je ne vous parle pas des violettes et du vert tendre des jeunes feuilles des arbres. Et puis côté oiseaux, ben ça fait à peu près un mois, il se trouve qu'on est à peu près ici sous une grande route migratoire pour les oiseaux. Alors depuis début mars, on voyait beaucoup de pinsons des arbres qui remontaient vers le nord de l'Europe. Et puis petit à petit, presque tous les jours, il y a un nouvel oiseau. Disons qu'en ce moment, c'est une saison vraiment passionnante quand on a l'oreille aux oiseaux et quand on a le loisir de pouvoir lever le nez en l'air.
Alors nous, nous sommes dans la forêt de Soux, que connaissent très bien. C'est vraiment une forêt un peu emblématique, hein, qui est sur un pli géologique.
Ah oui.
Donc on entend tous ces oiseaux que vous êtes allés capter. Oui. On est dans un abondant manteau forestier, là. Hein.
Ah oui, oui, oui. Ah ben, la forêt de Soux, c'est une sorte de monument naturel dans le département de la Drôme, hein. Une très belle forêt, pas très grande, une douzaine de kilomètres de long, 3 kilomètres de large, mais ce qui est particulier, c'est qu'elle est entourée de crêtes, de falaises, qu'elle est en forme de cuvette, si vous voulez. Et quand on est là-dedans, on a déjà un écho souvent très intéressant pour le preneur de son, et puis il y a énormément d'oiseaux, il y a plus de 100 espèces d'oiseaux nicheurs en forêt de Soux. Donc, et puis en plus, comme elle est entourée de crêtes et de falaises, on n'a pas de bruit extérieur.
Et si on change, là on va se déplacer un petit peu, et on va aller saluer Ferdinand Cheval, quand même du côté d'Autrive. On va changer un peu d'ambiance.
Oui, c'est plus une ambiance de jardin, de village avec le coq. Moi, c'était 5 heures du matin, c'était au mois de mai, j'étais venu enregistrer des oiseaux sauvages, et puis je tombe sur un poulailler qui est juste le voisin du palais du facteur Cheval. Donc, bon, bah, j'ai fait avec, et puis il est charmant, ce coq. Mais ce qui était étonnant, là, c'est que le palais, en fait, est la propriété d'un rouge que noir.
Ah, oui. D'accord.
Et dès la fin de la nuit, eh bien, le rouge que fait la tournée des clochetons, des petites tourelles, enfin, oui, le facteur cheval, c'est très alambiqué.
Voilà, donc c'est un bonheur, parce que c'est plein d'anfractuosité, quand même.
Ah, hein. Oui, oui, donc il doit nicher là-dedans, dans un petit coin caché, puis il fait sa tournée. Et puis, c'était une ambiance très jolie, très, très champêtre, une ambiance de beau jardin, puisqu'autour du palais du facteur cheval, il y a beaucoup d'arbres.
Alors, si on continue la balade, on peut aller du côté aussi de Sainte-Marie, dans la forêt de Lente, on peut aller entre Nyons et Ventrolles. Enfin, voilà, bon, et si vous voulez vraiment vous faire du bien, alors, vous avez donc cet album qui vient de sortir. Même si on n'est pas dans la Drôme, ce n'est pas un problème. Vous voyez, vous mettez ça, vous lisez en même temps. Et puis, vous avez sorti aussi, ça, c'est, on va dire que une de vos stars, c'est l'ABC des chants d'oiseaux. Oui. Dans votre studio qui s'appelle le studio des Trois Becs.
Oui, bien sûr. Ben là, c'est une méthode originale pour débutants, pour apprendre à reconnaître les oiseaux par leur chant. On propose d'apprendre à reconnaître 52 oiseaux à l'oreille. Pour un débutant, c'est déjà très bien.
Bon. Et alors, cher Pierre, ce soir, ben, vous ferez, j'espère, comme pas mal d'entre nous, ça vous éteindrez vos lumières bien à 20h30. Oui. Hein, c'est ce qu'on va essayer de faire. Parce que tout est lié, en fait, vous voyez, Serge Rue, là, on a Pierre aussi avec nous en direct. Mais ça va dans le même sens, tout ça, Serge, hein.
Ben oui, parce que la pression énorme exercée par le changement climatique sur les écosystèmes les plus fragiles de notre planète fait courir un risque d'extinction majeure à de nombreuses espèces. Le réchauffement climatique sera à l'origine d'une vague massive de disparition d'espèces sur l'ensemble de la planète et d'une migration humaine de plus d'un milliard d'êtres humains d'ici 2050.
Et ça, c'est très bien de rappeler qu'on a les problèmes sociaux avec les problèmes de biodiversité, évidemment avec les problèmes économiques. Tout est lié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les ours blancs. Mais il y a aussi, ce que vous me disiez, donc, des grands murs à Gibraltar aussi, qui sont en train de s'ériger.
Mais oui, mais les ours blancs sont des indicateurs importants de l'état de notre planète. C'est amusant de constater d'ailleurs qu'on a souvent qualifié les écologistes d'être anxiogènes, pessimistes, alarmistes, de sonner le tocsin. Je crois remarquer depuis septembre dernier, la crise financière nous fait tous courir aux abris. Tout le monde court vers ses parachutes adorés et on ne parle que de bonus et de plans sociaux, alors que nous avons devant nous l'avenir de la planète absolument à préserver et à inventer une autre économie. Partons de là. C'est vrai que cela ne se fait pas en claquant les doigts. Ça ne se fait pas les uns contre les autres, ça se fait les uns avec les autres. Il va falloir réinventer. Ce n'est pas simplement un paradigme nouveau à inventer. C'est aussi un état social. C'est la relation humaine entre nous et entre le Nord et le Sud. Et c'est pour ça que cette solidarité, elle doit exister à Copenhague début décembre 2009. On joue le sort des générations futures. On ne doit pas dépasser l'élévation de la température de plus de 2 degrés.
Alors ça, on le rappelle, c'est l'enjeu majeur parce que donc on a vécu autour de 15 degrés sur le climat de la planète. On va arriver très vite, le 1 degré, c'est quasiment fait. Ça va très vite, entre 2000 et 2008, par exemple, on a une augmentation de 3,5% de ces fameux gaz à effet de serre dans le monde. Donc ça galope, ça galope. Et derrière, une fois de plus, il faut le rappeler, c'est des enjeux de démocratie. Ici, on est quand même dans un nid encore assez douillet, fort heureusement, mais je veux dire que c'est ça, on ne s'en rend pas toujours compte. Il y a déjà des choses qui sont plus ou moins irréversibles.
Il faut sortir de la civilisation du malaise pour mettre un terme au malaise dans la civilisation. C'est l'enjeu. Oui. Et là, nous pouvons le faire. L'écologie est quelque chose de trop sérieux pour la laisser aux seuls écologistes. Je le dis très sérieusement devant vous. Comme l'économie, il ne fallait pas la laisser à certains hommes qu'on peut qualifier de banksters. Je ne parle pas, il y a des financiers honnêtes, il y a des banquiers très honnêtes.
C'est joli, banksters, vous dites.
Banksters, c'est Ignacio Ramonet dans son livre qui le dit, le crash. Donc, il est vraiment... Des hommes ont joué avec l'économie mondiale à la roulette russe. Et donc, nous ne pouvons pas continuer à être autophages, à être cannibales de nos matières premières. L'entreprise doit faire des profits, mais ces profits ne doivent pas nuire aux générations futures. Mmh. Voilà, donc il y a des choses à changer, toutes simples. Et puis, nous sommes en dette écologique massive. Ça risque de déboucher sur une mise en faillite de l'humanité. Alors, avec de l'espoir, de l'imagination collective, on peut quand même réussir à faire autre chose.
Et pour l'opération de ce soir, vous avez un bel ambassadeur.
Le 28 mars, participez à la plus grande élection mondiale et choisissez entre deux candidats, la planète ou le péril climatique. Ce jour-là, l'important n'est pas le pays où vous habitez, mais la planète où vous vivez. Le 28 mars, votez pour la planète en éteignant votre lumière et unissez-vous à 1 milliard de personnes dans le monde. Votez pour la planète, éteignez votre lumière pendant une heure. Rejoignez le WWF samedi 28 mars de 20h30 à 21h30.
Alors, ça remplace surtout pas le besoin d'économiser notre énergie le reste de l'année. C'est évidemment, on va vous dire, un geste symbolique. À quoi ça va servir? Qu'est-ce que vous répondez à cela lorsque les gens vous disent ça? C'est un truc d'écolo. Enfin, vous voyez, bon,
Mais c'est surtout un moment historique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à la même heure, partout sur la Terre et successivement, des hommes et des femmes se lèvent pour envoyer un message unique et simple à leurs dirigeants. Sauver la planète. Parce que ça ne sera pas simple pour nos dirigeants de négocier à Copenhague entre les pays riches, les pays émergents, les pays sous-développés. Nous sommes dans la mondialisation des égoïsmes. Il faut en sortir, Denis.
Oui, et donc, il faut les aider aussi, nos élus.
Il faut les aider. C'est vraiment un message d'encouragement. Quand ils arriveront à Copenhague en disant « Eh mes amis, il y a 1 milliard d'individus sur la planète qui nous aident, qui nous soutiennent et qui ont envie de faire autre chose qu'un résultat mièvre. Copenhague, ça ne doit pas être le Munich du climat. »
Merci à vous, Serge Auroux, et à très bientôt. Merci à Bertrand Durand, à Jean-Noël Vélan, à la technique aujourd'hui, à Claire-Sophie Collet, à Jean-Christophe Pinaza et Fanny Boyon qui réalisaient cette émission. Des sites sur le site de CO2 Mon Amour grâce à notre cyberdocumentaliste Anne Gouzon. La semaine prochaine, nous serons entre autres avec Jean-Marie Pelt. On sera avec lui en direct parce que nous serons au festival pour les 25 ans de Sciences Frontières à Marseille. Donc je vous attends au Pharo, au Palais du Pharo que vous connaissez. Nous y serons entre 14h et 15h en direct avec Jean-Marie Pelt entre autres. On est en train de monter le plateau avec Jean-Yves Casga, bien sûr aussi, qui est l'âme quand même de Sciences Frontières. Et puis un certain nombre d'autres invités. Dans quelques instants, ce sera donc Fabienne Chauvière, vous l'avez compris, avec Gilles-Éric Serralini pour ses aventuriers. Il est 15h.